Oui, bien sûr.
C'est bon.
La cerise dite Sassou est un fruit de montagne. Soumis aux rigueurs du climat des Pyrénées, la petite cerise basque est fragile, seulement quelques jours pour l'accueillir.
Dès l'instant où vous verrez un jambon quintoa, ce sera forcément un jambon issu de porc basque.
L'artogoria, c'est-à-dire le grand roux basque, que beaucoup connaissent parce qu'ils mangent des talons au Pays basque. C'est le produit fabuleux, ce que moi je connais depuis ma putain d'enfance.
On part au Pays basque à présent avec un fromage basque sacré, meilleur fromage du monde.
Oso irati, oso irati, oso irati, oso irati.
Lourama, 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 nous avons beaucoup de chance avec la bande dont on va déguster de dresser le couvert à Lourama. Bonjour à toutes et tous. Egunon Deneri. J'y suis arrivé, on peut dire radio aussi. Bon, super. Lourama, c'est le salon de l'agriculture paysanne du Pays Basque, dont la 14e édition se déroule à Biarritz depuis vendredi. Et jusqu'à ce soir, on ne sait pas exactement à quelle heure ça va finir, mais probablement lundi. Il semble, avec ce qui se prépare en tout cas dans les cuisines qu'on est allé visiter, ça promet d'être une très belle fête. Le salon est installé dans la halle d'Irati. Et il y a foule, le grand public, les chefs, les producteurs, tout le monde est au rendez-vous. Merci encore d'être présent. Nous sommes en direct et en public, vous l'aurez compris, pour vous raconter de bien belles histoires. Des histoires d'hommes et de femmes qui régénèrent le terroir basque, mais pas chacun dans leur coin, dans une démarche collective. C'est ça qui est assez éblouissant dans cette région, ce territoire, dans une démarche donc collective, mais également paysanne et agroécologique. Vous allez le voir, le Pays basque est particulièrement dynamique en termes d'idées innovantes, de biodiversité et de cuisine. Parce qu'après tout, évidemment, il y a la cuisine, on mange, et si le plaisir est au bout de la fourchette, c'est tant mieux. Trois invités autour de la table dont on va déguster pour en parler. Tout d'abord, Mariska Cheneau, bonjour.
Egunon.
Pour Soumou. C'est comme ça qu'on prononce le nom de votre ferme. Vous êtes à Itsassou, c'est pas très loin d'ici. Hein. Combien de temps il faut pour aller chez vous? On est allé y faire un tour hier soir.
Une petite demi-heure, c'est entre la côte et l'intérieur.
C'est ça, on est allé visiter notamment votre étable où il y a des brebis.
Voilà, c'est le début de la saison, donc vous avez pu voir les premières naissances des agneaux.
Ah oui, on a même vu des agneaux qui avaient un jour en termes d'âge. Vous produisez grâce à ces brebis de l'osso irati, le fameux fromage de brebis, en version fermière. Mais également, on va le voir, de la confiture de cerise d'Itsassou, à ne pas confondre avec une certaine confiture de cerise noire qu'on voit partout et qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le Pays basque. Et puis vous nous direz un mot également de votre association dont je vous laisse prononcer le nom.
L'Oursa India.
L'Oursa India, absolument. Une association dans laquelle vous œuvrez et qui permet d'acquérir et de sauver, on va le voir, des terres agricoles. Et on peut dire que c'est un succès. Notre deuxième invité, Marc Thomas, bonjour.
Bonjour.
Cuisinier, chef cuisinier, mais votre mission, votre champ d'action, c'est la restauration scolaire. Comment avez-vous réussi à transformer la cantine d'un collège d'Andaille, pas très loin d'ici, on est dans les Pyrénées-Atlantiques, en table vertueuse, locale et bio? Vous allez nous raconter cette aventure?
Bien sûr.
Et vous avez même un peu cuisiné pour nous?
Un petit peu, oui.
Et pour notre public. Et puis, enfin, notre dernier invité, sans lequel nous serions probablement pas à Biarritz en ce dimanche. C'est lui qui nous a proposé de délocaliser notre émission dans ce salon pour venir tâter le terrain ici, notre ami Christian Aguerre. Bonjour.
Ronan, Kennedy.
Bonjour Christian. Vous nous venez aussi d'Itsassou, hein?
Voilà, je suis un voisin à Marise. Ouais.
Voilà, vous êtes également, vous avez une ferme. Alors vous, c'est la polyculture, des volailles, des porcs quintoa, du piment d'Espelette. J'oublie pas mal de choses, hein?
Oui, de maïs artogori, et on fait aussi 250 pommiers de 40 variétés locales.
Absolument, des pommes, et ça on va en parler aussi. Et puis vous vous retrouvez dans bon nombre d'actions collectives pour protéger le patrimoine agricole et culinaire du Pays Basque, pour le faire partager, pour encourager les circuits courts. Ils sont du voyage à Biarritz, mes deux chroniqueurs. Aujourd'hui c'est Elvira Masson et Arnaud Daguin. Bonjour les amis.
Bonjour, bonjour.
Elvira.
Aujourd'hui, je vais célébrer l'Alliance Basco-Scandinave.
L'Alliance basco-scandinave, ça va, ouais. Votre micro est bien réglé?
On se refait pas.
Ah, ça y est, on vous entend beaucoup mieux. Alliance, oui, il y a un jumelage, hein.
C'est ça.
Il en est question. Arnaud Daguin, eh bien, je peux vous dire qu'il joue à domicile. C'est un peu le régional de l'étape, Arnaud.
Ouais, ça le fut, ça le fut. Un petit coup de vague à l'âme aujourd'hui, on va célébrer un anniversaire.
Le coup de l'âme est donc un vague à l'âme. L'élan paysan du Pays Basque, c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans On va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bienvenue à l'auberge Araneco Borda, Itsasu. Là, je viens de vous servir les poireaux grillés, sauce verte, vinaigrette d'œuf et pois chiches grillés, accompagnés des herbes du jardin, bien évidemment. Et ensuite, nous vous servirons une échidne de porc quintoa, cuit au four à bois pendant 5 heures, et ses petits légumes.
Hier soir, nous avons vécu une belle aventure. Sous des seaux de flotte. Nous sommes. Non. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Hein. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, ça devait être en Asie au moment de la mousson. Mais...
Vous exagérez toujours.
Le sens de la nuance.
On peut dire qu'il pleuvait quand même.
Il pleuvait assez fort.
Oui, il y a eu un petit grain.
Oui, un tout petit grain. Ça pleuvait à l'horizontale. C'était carrément bon. Nous sommes allés nous attabler avec toute l'équipe dont on va déguster dans un endroit un peu spécial. On a entendu une des personnes qui travaille là-bas nous présenter. Araneco Borda, alors Christian Aguerre, vous êtes bien placé quand même pour nous définir en quelques phrases cet endroit.
Araneco Borda, c'est une auberge paysanne que voilà, j'ai créée il y a 4 ans maintenant. C'est la continuité d'un projet collectif qu'il y avait dans le quartier, puisque ça fait maintenant 22 ans qu'on travaille ensemble avec les 4 fermes du quartier sur la valorisation de nos produits en circuit court. Et forcément, en ayant devant nos yeux tout ce bassin de production, eh bien, le restaurant est venu naturellement.
Très spontanément. Alors quand vous dites que vous avez ce bassin de production sous vos yeux, c'est vraiment la réalité. Même de nuit, on l'a deviné. Il faut quand même imaginer une auberge paysanne qui domine un très beau paysage extrêmement vert. On est au Pays Basque, des collines, des plaines. On est au pied du Mont d'Arin, à mi-chemin entre Itsasu et Spelette, hein, c'est ça?
Oui, oui, toi, entre les deux, oui.
Et tout le menu est réalisé à partir de produits fermiers et agroécologiques vraiment locaux, des alentours. On mange vraiment le paysage.
Exactement, là-bas. C'est ça le premier charme de cet endroit, c'est qu'on déguste le paysage qu'on a sous les yeux. Moi, j'ai toujours aimé l'idée du kilomètre zéro. Là, on est vraiment en plein dedans.
Quoi. On est en plein dedans et on s'est vraiment régalé.
On s'est régalé.
Souvenir, Elvira.
Bah déjà, l'échine de cochon, plutôt four à pain, four à bois, pendant 5 heures. Mais c'est confit, ça croustille, c'est, je sais pas, c'est du beurre de cochon, quoi.
Quand on parle de beurre de cochon...
Elle a pleuré, Elvira, elle a pleuré.
Non, mais la réalité, c'est que la grande qualité parmi tant d'autres de ce porc quintoa, hein, qui est une race pinoire du Pays Basque, hein, c'est bien
c'est
ça.
C'est ça, oui.
Et qui est donc un cochon de race ancienne, sa qualité, c'est le gras notamment et le goût de son gras.
Voilà, c'est des cochons, c'est des anciennes races qu'on appelait des races assez hindoues, puisqu'avant, c'est des cochons qui étaient élevés pour produire aussi de la graisse, hein, puisque les gens s'en servaient pour cuisiner et conserver la viande. Et aujourd'hui, c'est grâce à cette capacité à faire du gras et du persillé qu'on peut élever ces cochons longtemps et avoir tout un tas de morceaux savoureux qui vont de la joue en passant par les poitrines.
C'était génial.
Le jambon.
C'était à la fois grilloté, extrêmement fondant. On peut parler de compote de cochon. C'était c'était prodigieux, une expérience comme j'en vis moi personnellement, allez, une fois tous les 2 ans. Franchement, cette sensation-là était absolument dingue. Maryse Cacheneau, vous êtes également impliquée dans cette affaire puisque vous êtes voisine de la ferme. On est passé chez vous juste avant et vous fournissez aussi cette auberge.
Oui, alors moi je suis installée sur la ferme familiale et donc avec mon mari nous élevons des brebis de race locale manèche, tête rouge. On a du lait de brebis qu'on transforme en fromage fermier au lait cru au soirati.
C'est ça, et on peut déguster notamment vos produits et bien dans cette auberge. Arnaud, je me suis rendu compte hier que ton prénom rimait avec Chagarnaud.
Avec Arnaud et avec Chagarnaud notamment.
Tu nous racontes ce que c'est en un mot?
Non, je ne vous le raconte pas, je vous le fais entendre.
Ah, parce qu'il fait de la musique, le Chagarnaud. Alors, on va pas comparer ça au versage du thé à la menthe au Maroc.
Non, pas du tout.
Mais il y a l'idée quand même d'élever un peu la bouteille.
Oui, c'est cristallin comme ça, il faut le faire friser un peu. Ceci dit, ce sont des cidres, enfin, ces cidres-là, ce ne sont pas des cidres, chez Chagarnaud, c'est du vin de pomme. La fermentation est poussée jusqu'au bout, il n'y a quasiment plus de sucre dedans. Et c'est une véritable potion magique. Enfin, c'est le secret d'une bonne santé.
La preuve, on est en pleine forme ce matin.
Absolument.
Mais oui,
alors qu'on en a très peu bu hier.
C'est sec, c'est rafraîchissant, c'est pas trop alcoolisé et c'est
très bon pour la santé, voilà.
Et c'est vraiment délicieux. Une boisson fermentée de façon naturelle qu'on trouve encore dans de très nombreuses fermes de la région. Chagarneau.
100% pomme.
100% pomme. On a commencé avec le Chagarneau, on va poursuivre avec bien d'autres saveurs paysannes. Elle se donne rendez-vous à la 14e édition de l'Ourama à Biarritz. L'adresse qu'on évoquait, c'est Araneco Borda. On cite juste le couple qui tient cette adresse.
Alors oui, c'est Alexis et Elodie qui sont aux manettes du restaurant depuis mars.
Absolument, et vraiment, on vous recommande cette adresse. Elle est vraiment très inspirée. On se retrouve juste après Truth Hurts de Lizzo, choisi par notre programmateur musical Djoubaka. Belle journée pluvieuse sur France Inter.
With your bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. In a minute, yeah. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like, aye, aye, aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be.
Grosse ambiance au salon l'Ourama. On va déguster de reste couvert à Biarritz. Nous sommes en direct devant le public de ce salon dont on célèbre la 14e édition. Alors ce sont 6000 mètres carrés de bonnes choses, de saveurs paysannes, de belles initiatives, 600 bénévoles, des repas gastronomiques, des expositions, des dégustations, des conférences. On a la chance d'avoir avec nous celle qui, avec quelques autres, a lancé ce salon. En 2006, Maryse,
oui.
Pourriez-vous nous en résumer sa mission, sa vocation ?
C'était 2006, alors évidemment j'y étais et j'ai la chance d'avoir participé à ça, avec beaucoup d'émotion la première fois, mais c'est une grosse, grosse équipe autour de nous. Cette année, c'est près de 700 bénévoles, sans qui on pourrait pas créer l'Ourama. C'est des petites mains qui travaillent de tous les côtés, c'est des cuisiniers qui nous soutiennent. Et la finalité, l'objectif, c'était créer un événement qui fasse le lien entre les citadins et l'intérieur, c'était amener la ferme sur la côte et montrer ce que le Pays Basque sait faire de bien, de bon, et essayer de le faire partager.
Et le succès a été au rendez-vous dès la première édition.
Voilà, et pourtant on l'a préparé en 2 mois, c'était un pari fou. Et ça a marché dès le début. Comme quoi, ça répondait quand même à une attente, certainement.
Arnaud Daguin y était, je crois.
Ouais, j'y étais.
Alors?
Fait le gratin Lourama. Il m'avait dit, il faut faire un plat, et amener des copains chefs et tout. Il dit, OK, on fait ça. J'ai dit, moi, je veux bien faire un plat, mais ça sera un plat végétarien. Et là, il y a eu froid. Et donc, j'ai fait le gratin Lourama, qui est servi encore, je crois, de temps en temps. Voilà, avec la courge, la réduction d'oignons, vin rouge et le fromage de brebis.
Mais saluons quand même aujourd'hui. On a dîné avec lui hier. Le nouveau président de Lourama. Il est là-bas. Il fait un grand sourire. C'est Iñaki. On peut l'applaudir. Je laisse à Christian le soin de prononcer son nom de famille, Iñaki
Berroco Irigoyen.
Voilà.
Voilà.
Non mais en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, on a évidemment fait un tour dans ce salon et parmi les vedettes de ce salon, on trouve pas forcément et on trouve même pas du tout de gros tracteurs bodybuildés, mais de drôles de machines, de drôles d'engins. Comme par exemple cette espèce de truc sur trois roues qui est né d'une initiative à laquelle Christian Aguerre a participé, Arto Gori, ça c'est l'association, et vous avez donné naissance à une espèce de moulin nomade, c'est bien ça ?
C'est ça.
Racontez-nous.
C'est un moulin mobile. Arto Gori, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans maintenant, qui regroupe une quinzaine de paysans qui travaillent autour de cette variété locale de maïs, qui est le grand roubasque. Donc on a travaillé sur l'élaboration d'un cahier des charges, c'est-à-dire c'est du maïs qui est issu de sélection massale, c'est-à-dire c'est le paysan qui choisit ses épis dans le champ.
Ah oui, ça change des autres façons de faire,
voilà,
dans le maïs.
Voilà, des sacs de semences orange, oui, c'est pas la même chose. Ensuite, qui est cultivé en bio, sans irrigation, séché à l'air libre et moulu justement à la meule à pierre. Donc cette meule à pierre, pour que le produit reste vraiment fermier, puis que ce soit le paysan qui soit acteur de son produit jusqu'au bout, mais on a décidé de le faire mobile et il circule de ferme en ferme pour moudre le maïs des paysans et pour faire la farine et la polenta qu'on propose à la vente pour l'alimentation humaine.
C'est donc un moulin qui sert à une quinzaine de producteurs de grands roubasques.
C'est ça. Ouais, ouais.
Pour faire à la fois de la farine, mais également, quand la mouture est un peu plus épaisse, de la polenta, par exemple.
Cette polenta, ouais. Extraordinaire.
Et oui.
Et avec la farine, on fait des talots, forcément.
Des talots. Et oui. Et les talons, on les a là. Alors, je m'en suis déjà, j'avais l'estomac dans les talots. Bon, non, je
Bien.
Ouais. À peu près 3 heures cette nuit, hein, pour y réfléchir. Oui, tout à fait. En attendant, c'est délicieux. C'est à la fois, alors, c'est paysan. Ça pourrait être de la street food extrêmement contemporaine. C'est-à-dire que vous connaissez ça à Paris. Évidemment, tout le monde débarque et c'est un réel succès. C'est pratique à manger, c'est délicieux, c'est gourmand, c'est même un peu junk food, on va dire. Ouais. Alors que ce n'est qu'à partir de produits évidemment extrêmement bien sourcés, puisque c'est le principe d'une galette qui est réalisée précisément à partir de cette variété de maïs. Il y a pas de talo avec du maïs moderne. Qui dit talo dit forcément grand roubasque.
Alors, on aimerait. Ah ouais. On aimerait. D'accord. Pour l'instant, le talo, en fait, la difficulté du talo, c'est que si on le fait rien qu'au maïs, juste avec un peu d'eau et de farine, bon, il devient assez cassant et assez sec. Donc, beaucoup de gens, avant, on le mangeait, c'était que des galettes de maïs, mais maintenant, les gens mélangent beaucoup de blé avec pour le rendre... en fait, ça devient souvent des wraps, quoi. Donc, mais dans ce petit cercle de strat food, là, il y a 3 couches... Et donc
il y a food. Ah pas mal, jeu de mots. Non mais on a un concurrent jeu de mots. Strat food.
Et donc il y a 3 couches, il y a une couche de maïs Arto Gori.
Oui.
Il y a aussi du fromage de vache, donc c'est du fromage Hidoki, donc issu aussi d'une démarche collective d'une marque du Pays Basque.
Hidoki étant une charte fermière.
Voilà,
qui a un cahier des charges bien précis, qui défend l'agriculture paysanne, et c'est un label, enfin on peut pas dire label, c'est un signe de qualité, voilà, une marque collective. Ouais, exactement.
Et au-dessus, il y a du quinoa, forcément. Donc là, vous avez 2 formes de gras, c'est la poitrine, séchée à peu près 15 mois, et la matraïla, qui est la bajou de quinoa, qui peut être mangée crue ou cuite, et qu'on a fait légèrement griller sur les talons pour amener ce gras nécessaire.
C'est 2 couches de bon gras, quoi.
Voilà.
Et c'est un vrai plaisir. C'est compliqué à faire. Je parle uniquement de la galette avec de la farine de maïs grand roux.
Alors, pour le faire comme ça, tendre, moelleux, souple, en fait, il faut le travailler comme une pâte à choux. C'est-à-dire qu'on met l'équivalent d'un volume d'eau et d'un volume de farine. On fait bouillir l'eau. Quand elle bout, on mélange la farine et on la sèche un peu comme une pâte à choux pour après la travailler, l'étaler pour en faire ses talons.
Ouais. C'est ça, grand roux basque. Ben oui, on connaissait Il y a le géant vert, hein, mais nous, on le trouve un petit peu bodybuildé, un peu trop, voilà, bon, on ne sait pas s'il nous veut du bien, d'ailleurs. Et puis, il y a le grand roux, voilà, on a fait notre choix. Et en tout cas, il est délicieux, nutritif, rustique, à la fois doux, et c'est vraiment un maïs prodigieux, et bravo de le remettre au goût du jour. Il y en a un qui, à sa manière, se bat aussi pour le grand roux basque, plutôt au fourneau d'une cantine scolaire. Il fait même déguster cette variété ancienne de maïs à des élèves, des collégiens, hein, ils ont entre 11 et 15 ans, c'est Marc Thomas, et vous nous avez préparé, alors là on passe, bravo, ouais, vous pouvez. Il y a eu une impulsion départementale pour favoriser le bio dans les cantines scolaires, et vous, vous faites partie de cet élan à la fois culinaire et politique. Cette polenta, donc c'est du maïs, mais sucré.
C'est ça.
On passe au dessert directement. Racontez-nous comment on s'y prend. C'est pas si compliqué.
Alors c'est une mousse de polenta, donc c'est de la polenta, donc qui vient de, hein, on gagne, c'est ça.
De la polenta Artogori.
Oui. Artogori, voilà. Oui. Et donc je travaille comme une semoule de blé, et par la suite froide, je l'accommode avec une chantilly.
Oui. Vous la mélangez. Vous... Ah non, vous.
Une fois froide, pas. une fois froide, je monte une chantilly et je mélange avec cette polenta. Et en plus, je fais une petite des poires pochées à la verveine, donc avec une infusion de verveine. Et voilà, et je monte en petite verrine. Alors pour les élèves, je fais pas comme ça, bien sûr, mais je mets en petit ramequin. Et voilà, les élèves peuvent déguster ce genre de produit à la cantine.
C'est bon.
Et la polenta cuite à l'eau ou au lait ?
Non, au lait. Bio.
Alors quand on a une belle polenta à la maison, même si on s'oriente vers une autre variété de maïs rustique, etc. On prend une polenta, donc c'est une semoule assez épaisse.
Un peu plus épaisse.
On la fait cuire dans du lait.
Dans du lait, comme une semoule de blé.
Et vous sucrez un peu.
On sucre. Et ensuite, on monte cette chantilly et on mélange.
Quel régal. Qui a goûté autour de la table? Maryse.
Moi, je veux bien retourner à l'école, hein, c'est ça, franchement.
Oui. Mais justement, alors.
Ils en ont de la chance, je trouve, ces collégiens.
On va donner la parole à un auditeur qui s'est fait la verrine et qui a un grand sourire. Je pense qu'il a aimé. Mais dites-nous juste un mot de ce que vous disent les collégiens une fois qu'ils ont ingurgiter, entre guillemets, ce dessert nourrissant, qui fait du bien par où il passe. Est-ce qu'ils viennent vous féliciter? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ont la banane? Est-ce qu'ils ont de l'énergie pour poursuivre leur cours?
Forcément, les élèves, dès que c'est du sucré, ils ont toujours la banane.
Oui, mais, de toute façon. Mais c'est sucré modérément.
Oui, parce que justement, il faut éviter trop de sucre. Nous avons quand même à respecter certaines choses dans le scolaire. Donc, il ne faut pas trop de sucre. Et voilà. Mais les élèves sont quand même très, très reconnaissants de ces préparations.
Merci beaucoup. Monsieur, vous vous appelez comment?
Je m'appelle Christian.
Bonjour, Christian. Bonjour. On en a un en plateau de Christian.
Oui,
on s'en fait deux.
Oui, oui. Et je suis également d'Itsassou.
Ah.
Alors, donc à Itsassou, il y a plusieurs complots.
Comment ça te suspecte, cette
histoire? Et entre autres, j'organise le Biarritz Beer Festival en avril ici, qui est un festival sur accord mets et bières,
ah,
avec des chefs, avec des producteurs, avec des artisans brasseurs locaux, voilà.
Ah, locaux, voilà. Bien.
Donc, alors, je suis impatient de dire ce que je pense de cette.
Et bien sûr, vous êtes même là pour ça, Christian.
Ben ça tombe bien. oui, parce que déjà, je pense qu'il faut. C'est le visuel qui est absolument fabuleux. C'est servi dans une petite terrine transparente. Et on y voit, on a l'impression de voir des nuages. Mmh. Alors ça, c'est merveilleux.
Christian est poète.
Et alors, on approche le nez des nuages, et là, on est sur le nez un peu de poire.
Oui.
C'est étonnant. Alors on goûte. D'abord, pour goûter, il faut traverser cette petite émulsion de chantilly et attraper cette petite poire fondante, pochée. Et la porter à ses lèvres, alors c'est absolument fabuleux.
Mais il pourrait faire critique gastronomique, le garçon. Très bien, bravo, merci Christian. En tout cas, on a compris qu'on a aimé, la bonne nouvelle.
Extraordinaire.
Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que la recette de cette polenta signée Marc Thomas est à retrouver en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Je pose un peu la question qui fâche. Quand on habite à Paris, à Brest, à Marseille ou à Lyon, qu'on veut s'essayer un peu, même si on est, je sais, dans une logique de distribution locale. Évidemment, on comprendra qu'ici, on favorise avant tout les circuits courts. Moyen de mettre la main sur un peu de farine de grand roux, où il faut vraiment se déplacer au Pays Basque, justement, ça peut être d'ailleurs le charme de l'opération.
Oui, mais enfin bon, c'est des produits secs, donc ils voyagent facilement, donc il n'y a pas de trop de soucis de logistique. Après, voilà,
vous les distribuez en dehors du territoire.
Ah, oui, bien sûr, oui, mais même si aujourd'hui la filière, enfin le collectif est naissant, on est 15 producteurs. Bon, on s'est limité volontairement à la production pour pouvoir justement la partager. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un projet qui démarre, qui va se développer forcément.
Et le fameux moulin mobile. se déplacent déjà de ferme en ferme.
Voilà, on a déjà fait une campagne, la dernière campagne, et là on va il est là donc à Lourama, et on va démarrer à partir de février-mars la prochaine campagne de mouture d'Artogori dans les fermes.
Bravo, vraiment, félicitations, c'est une très belle aventure. Alors on va ajouter une petite touche. On va appeler ça de l'exotisme, je sais pas, avec Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira, je crois que c'est à vous.
C'est à moi. On sait que les marins basques, les baleiniers, naviguaient jusqu'à Terre-Neuve, jusqu'au Groenland, donc il paraît pas complètement absurde de pousser aujourd'hui jusqu'à la Scandinavie. En tout cas, ça a été le pari d'un jeune couple.
Qu'Elvira...
Oui,
je peux le dire.
J'ai un léger tropisme. Dès que je peux en parler, j'en parle.
Une petite moitié suédoise, voilà. Ça ne se voit pas du tout d'ailleurs.
Voilà. Donc ça m'a bien arrangé cette affaire aujourd'hui. C'était le pari d'un jeune couple qui est à la tête de Careux. Alors Careux, c'est C-A-R-O-E.
Dans le milieu, tout le monde dit Karoé.
On dit Karoé parce que voilà, c'est un peu compliqué à prononcer à la danoise. C'est un restaurant mouchoir de poche qui est installé rue Gambetta, la rue qui n'arrête pas de bouger à Biarritz. D'ailleurs, Arnaud l'a à peine reconnu, cette rue.
Oui, c'est vrai.
Là, il a pris un coup de vieux, Arnaud, quand il est allé hier.
Terrible.
On a pris un petit apéro là-bas.
Ouais.
Mais il y a encore Rosie Coiffure.
Un gros apéro.
Ah oui.
Non, c'est vrai.
Il nous a parlé de Bribri, le bureau de presse. Rosie Coiffure. Alors, ce couple, c'est Joséphine et Florian Cordeil. Elle est franco-danoise, elle a grandi au Pays Basque, il est français. Elle travaillait dans la production de films, il était ingénieur, il a d'ailleurs travaillé quelques années au Danemark. Il y a 4 ans, ils ont tout plaqué, avec pour seul bagage leur audace et leur envie de proposer une cuisine tournée vers la pêche et vers le répertoire scandinave. Florian en cuisine, Joséphine en salle. Ils proposaient alors pas mal de harengs sous diverses formes, des poissons en gravlax, le fameux smeur et brud, cette tranche de pain de seigle beurré qu'on peut garnir à peu près de tout ce qu'on veut et qui est d'ailleurs répandue dans tous les pays scandinaves, charcuterie, fromage, crevettes, etc. Au fil du temps, la carte de Careux c'est un peu déscandinavisé.
Ah bon,
ouais,
c'est l'effet
l'acclimatation
au Pays Basque.
Ouais. Et elle s'est tournée un peu plus vers la terre pour plein de raisons. D'abord, la difficulté à importer des produits danois de bonne qualité à des prix envisageables, ce qui explique aussi le peu de restaurants scandinaves qu'il y a en France. Je pense que c'est une des explications. La difficulté, alors ça c'est un peu plus mineur, à trouver du vrai pain de seigle, et non pas du pain au seigle, mais du vrai pain de seigle à 100%. Et puis tout simplement une envie naturelle de leur part de se tourner vers des produits locaux. Je pense que quand on est au Pays Basque depuis quelques années, et qu'on a affaire au climat qui nous environne aujourd'hui, ça paraît... archi normal, il y a une espèce d'émulation locale.
Un dynamisme agricole stupéfiant. Ouais.
Et ça commençait à n'avoir plus trop de sens d'importer des harengs de la Baltique, une des mers les plus polluées du monde s'il en est, par contenant de 100 kilos. Pour la même raison, ils ne travaillent plus le saumon, mais le maquereau, le chinchard, le flétan, uniquement de la pêche de petits bateaux. Ils font leur salaison eux-mêmes, ils proposent des choses formidables, donc on est effectivement assez loin des terres vikings. Une langue de cochon des Aldudes, fumée, sauce chimichurri qu'on a goûté hier.
Ah, c'était bon ça.
Ah ouais.
Vraiment.
Ah oui.
Vraiment.
Un tacos, non pas à la farine de maïs grand roux, mais un tacos fait avec dont la tortilla était une fine tranche de céleri rave garnie de poulpe, mais remarquable.
Avec une petite sauce qui est bien relevée.
Ouais. Une betterave, mais là, pas du tout à la danoise, pas pickles, pas saumure, mais confite hyper concentrée avec une sauce teriyaki. Bref, on comprend bien pourquoi le guide fooding leur a remis la semaine dernière le prix de la meilleure régalade de l'année. Alors, que reste-t-il de danois chez Careux? Il y a toujours un gravlax, mais qui ne dit pas son nom, qui est un peu détourné. Ici, c'est une truite dispeggy préparée en gravlax, donc marinade à sec, au sucre et au sel. Elle a ensuite passé au fumoir pour être saisie, servie non pas à la moutarde sucrée à la nette, mais avec une sauce oisine, et un dessert complètement atomique. Là, on est vraiment dans le dessert
dingue.
Danois. On fait la même chose d'ailleurs chez moi en Suède. Au Danemark, ça s'appelle le riz à l'amande, en un seul mot. C'est le dessert qu'on mange en principe à Noël au Danemark. La tradition voulait, en tout cas en Suède, j'ai pas demandé à Joséphine si c'était le cas au Danemark, on y cache une amande, un peu comme une fève. C'est vraiment comme un coussin d'air monté avec de la crème, comme une crème fouettée, amande hachée et confiture de cerise, dit tzatsu. Ça me fait penser que vraiment la cuisine scandinave du quotidien, on la connaît pas bien en France. On s'intéresse surtout à ces pays-là pour les expériences gastronomiques hors normes qui sont proposées en tête Noma à Copenhague. Ce qui fait qu'on a un peu tendance à imaginer qu'on ne se nourrit dans ces pays-là que de lichen fermenté, de pickles d'écorce de bouleau et de gravlax de fourmis boréales. Si vous voulez vraiment comprendre...
Il y en a aussi, hein.
Mais oui. Ça existe aussi.
Ouais, les fourmis boréales, je les ai goûtées, hein. C'est un petit goût acidulé.
Finalement, je me dis que Joséphine et Florian, ce qu'ils ont gardé chez Careux, c'est peut-être l'essence de ce que fait cette cuisine scandinave du quotidien, cette simplicité. Si vous voulez d'autres adresses de ce type, il y en a une à Lyon, c'est le Kitchen Café.
Oui.
Il y a OK à Paris. Des adresses tenues également par des femmes suédoises. Donc c'est amusant de voir que le répertoire scandinave est porté par des femmes en France. Je vous ai mis les adresses à la page On va déguster.
Merci beaucoup Elvira. Il est vrai que la Scandinavie a des choses à nous dire aussi en termes de cuisine, et notamment au Pays Basque. Formidable.
Notamment quand elle se métisse comme ça.
Formidable terre d'accueil. Je le demande juste à Marie si elle a goûté cette.
C'est vraiment bon.
Ce dessert.
C'est la folie, non?
Et c'est surprenant. Oui.
C'est la folie.
Parce que vous en faites de la confiture de cerise, on va le voir dans un instant, donc vous n'y êtes pas insensible.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Dans un instant, on continue à évoquer ce formidable élan collectif. Bien d'autres produits, des choses que l'on va déguster. Ça se passe juste après. Alors, un petit voyage mélodieux et poétique inspiré d'une pop française des années 60. Biche, le laboratoire. Les saveurs paysannes sont à la fête. Bon appétit sur France Inter. On va déguster, plante son couteau et sa fourchette à Lourama. Merci à vous d'être venus si nombreux dans cette 14e édition de Lourama, qui est donc le salon de l'agriculture paysanne, locale, à Biarritz. On est en très très bonne compagnie et on va parler de très beaux produits. Il y a notamment une assiette devant nous qui nous fait très envie. Fromage emblématique de la région, c'est l'Osso Irati, même si... il existe une version de l'Osso Irati faite par de grosses laiteries au lait pasteurisé dans une version semi-industrielle. Ce fromage existe également, très identitaire, en version fermière, au lait cru, et c'est votre job, Marie Scacheneau.
Oui, c'est ça. Donc, nous, on fait du fromage fermier au lait cru, effectivement. Ceci dit, je dois dire que même aujourd'hui, les laiteries se mettent à faire du lait cru. Elles en font en volume autant que les fermiers.
D'accord.
Et pour nous, c'est vraiment encourageant aussi qu'elles décident d'en faire au lait cru.
Et à nouveau, un fromage, évidemment, ancré dans son territoire. On sait que le lait cru, c'est porteur de goût, c'est porteur d'arômes. Et ça change la physionomie, la palette aromatique du fromage.
Voilà, exactement. Il y a du goût à la fin. Et quand un consommateur achète du fromage Osso Irati, il est sûr au moins d'avoir du lait qui est issu deux brebis de race locale, des brebis qui mangent de l'herbe, des brebis qui sont respectées, parce qu'on respecte la saisonnalité, des périodes de repos. Et donc c'est important aussi. Il y a ce qu'on mange, il y a le goût, il y a ce qu'il y a dans l'assiette, et puis il y a la façon de le produire. Et l'osso irati, c'est la garantie aussi d'une façon de produire.
Définition d'un osso irati, on peut parler d'une tome au lait de brebis?
Alors c'est une pâte pressée,
oui.
Ça veut dire que le lait est chauffé à 32 degrés, il est empressuré, ensuite il y a une réchauffe et un décaillage. On récupère la partie solide et ensuite il est pressé et ensuite, bien sûr, affiné pendant plusieurs mois pour prendre tout son goût et toute sa saveur.
Tout son goût et sa saveur avec un côté très caressant, une rondeur très agréable. L'osso irati, on part pas justement dans des arômes assez violents ou agressifs, même si ça dépend évidemment, j'imagine, des stades d'affinage. Mais on est quand même dans quelque chose d'un peu suave.
Oui, c'est caressant. Le fait que ça soit fait avec du lait cru, c'est surtout très bon pour la santé, je le rappelle quand même. C'est les premiers bienfaits du lait cru, c'est des bienfaits de santé. Après, pour cet accompagnement qu'on fait d'habitude, ou pas d'ailleurs, avec la confiture de cerise, moi je pense que je l'ai toujours vécu, non pas comme une figure imposée, mais comme un choix, en fonction justement de l'affinage du fromage. C'est un fromage qui peut... Moi, j'en ai poussé jusqu'à quelques 14 ou 15, 16 mois, des fois. Donc là, ça devient presque un parmesan. Enfin, c'est très dur, c'est assez sec. On m'en servait un peu en cuisine pour ça, j'aimais beaucoup. Et quand on les a affinés un peu plus que les 6, 7 mois, c'est vrai qu'on peut les adoucir d'un peu de confiture. Mais on n'est pas obligé. Quand ils sont dans l'état où on le goûte là aujourd'hui, pour moi, il va très bien tout seul.
Ce qui est assez intéressant, justement, on ouvre le débat de la carte postale basque qui exige... presque comme une espèce de figure imposée ou d'impératif, le mariage entre d'un côté l'osso irati, de l'autre la confiture de cerise dite sassou. Il est vrai que ces deux éléments, le cerisier, la brebis, sont en symbiose dans votre ferme. Voilà. Donc a priori, dans l'assiette, ça pourrait bien se passer.
Voilà, ça se passe bien dans l'assiette et ça se passe bien sur le terrain, effectivement.
Racontez-nous pourquoi.
Traditionnellement, les cerisiers, ils étaient autour des prairies. Et nous, on a continué à les produire de cette façon-là. On a aussi des vergers, qu'on appelle des pré-vergers, parce que chez nous, les cerisiers, ils sont pas désherbés chimiquement. Donc, les brebis viennent pâturer sous les cerisiers. Elles y trouvent de l'ombre. Elles amènent aussi la fertilisation naturelle à nos cerisiers.
Elles mangent quelques petites cerises de temps en temps.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire démarrer les branches un petit peu. Bon, voilà, c'est un accord... entre nous.
Mais il y a quand même donc clairement un partenariat entre vos brebis manèche et vos cerisiers.
Voilà. Au Pays Basque, on peut pas faire grand chose d'autre que de l'élevage parce qu'on a des terres en pente. Mm-hmm. Et ces brebis permettent de valoriser ces terrains en pente. Mais je pense qu'on a quelque chose à gagner à planter plus de fruitiers et que c'est un mariage qui peut être intéressant aussi du point de vue de la biodiversité que l'on cultive.
Combien de brebis sur combien d'hectares?
Alors nous, on a une ferme qui fait 28 hectares. C'est une ferme moyenne, on va dire, pour le Pays Basque. En France, on a des fermes qui sont au moins en moyenne deux fois plus grandes. Mais au Pays Basque, je fais une parenthèse, il y a quand même 30% des fermes qui sont encore plus petites et qui, malheureusement, ne sont pas soutenues suffisamment, autant qu'elles le méritent, par les pouvoirs publics et pourtant qui rendent des grands services au territoire parce que elles entretiennent des terres très en pente qui, sans ça, seraient embroussaillées et qui nous permettent aussi de nous balader en montagne, d'apprécier les paysages.
Très bien. Embrayons sur ce sujet qui vous hérisse un peu le poil. Vous avez raison de l'applaudir. Son discours est tout à fait pertinent. Le petit sujet qui fâche et qui permettra d'alerter éventuellement les nombreux vacanciers qui viennent, on sait que la région a énormément de succès pendant l'été. On peut donc trouver à peu près partout, dans beaucoup de points de vente, des supermarchés, des commerces, des épiceries, cette fameuse confiture de cerise noire. Et là, vous avez une petite chose quand même à nous dire, petite mise au point de Maryse Cacheneau.
On en a parlé entre nous, hein. Vous connaissez.
Oui, mais là, vous allez en parler autrement qu'entre nous.
Non, j'allais dire que vous connaissez la Corse et qu'on entend aussi parler de la charcuterie corse et on n'a pas toujours ce qu'il faut derrière.
Oui.
Mais la cerise, c'est un peu pareil, effectivement. Nous, on a des cerises locales qu'on peut manger en frais ou qu'on peut transformer. On l'appelle la cerise d'Itsassou. C'est la garantie que ce sont vraiment des cerises qui sont cueillies à la main à Itsassou. Mais effectivement, il existe beaucoup de confitures de cerises noires, de cerises du Pays Basque. Et C'est un peu difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Oui, mais alors, il y a de la confusion.
Cette cerise vient d'où? Quand elles ne sont pas dites, ça sous.
Elles viennent pas forcément de France. Et notre produit, il a beaucoup de notoriété. Par contre, un arbre, vous savez, il faut moins de 10 ans pour qu'il commence à produire. On a des petits volumes. Et donc, il y a des gens qui se sont engouffrés dans ce commerce-là.
En gros, clairement, ça peut venir de Turquie, cerise congelée.
Par exemple, oui.
Et elles sont vendues comme confiture de cerise noire.
Voilà.
Avec, tous les petits logos, les couleurs du Pays Basque pour tromper un peu le consommateur, on peut le dire.
Oui, on peut le dire comme ça.
Et vous battez justement pour la sauvegarde de ces variétés anciennes de cerises. On les cite pour faire résonner la langue basque sur les ondes de France Inter.
La plus précoce est la Pélois. Ensuite, il y a la Chapata, qui est une petite guigne avec une peau rose orangée et une chair blanche. Mm-hmm. Et la dernière que j'ai portée aussi aujourd'hui, c'est la Belcha. Belcha, ça veut dire noir. C'est aussi une variété locale qui est un peu plus tardive. Sachant que chez nous, toutes les cerises sont quand même récoltées avant la fin du mois de juin. En juillet, en principe, on ne récolte plus de cerises.
Et les notes aigres-douces de ces confitures?
Oui, tout à fait. La chapata est un petit peu acidulée. Moi, je l'utilise aussi pour faire des cerises à l'aigre-doux, c'est-à-dire au vinaigre. Et d'ailleurs, qu'un des cuisiniers va proposer au repas des chefs de l'Ourama aujourd'hui.
Très bien. Marc Thomas, ça vous arrive de travailler la confiture de cerises dite Sassou ou pas? Ou c'est encore une production, on l'a compris, ça reste confidentiel, elle se relance, il y a de plus en plus de producteurs, mais ça part de loin, si j'ose dire. Est-ce que vous avez l'occasion de la travailler?
Non, j'ai pas l'occasion de la travailler. C'est très difficile à trouver. Et donc pour un collège où il y a 600 repas, c'est compliqué d'avoir de la cerise noire pour 10 sous pour 600.
Oui, voilà. Monsieur.
Oui, alors je suis Jean-Marie.
Bonjour Jean-Marie.
Du Pays Basque.
Oui.
Du Pays Basque intérieur. Et oui, on retrouve tout à fait. Alors là, je viens de consommer du fromage Osso Irati avec les deux confitures de cerise donc de Maryse. Et ça étaye tout à fait ce que vous avez dit. On retrouve en bouche, évidemment, au travers du fromage, moi je retrouve les fleurs du printemps, l'odeur extraordinaire des premiers foins qu'on sent encore dans nos campagnes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le vivre pour le dire même. Mm-hmm. Et donc on retrouve ça dans ce fromage. Et puis la cerise amplifie encore ça en apportant encore d'autres arômes. Voilà. Et je trouve ça extraordinaire, un mariage succulent et que je recommande bien sûr à tout le monde, particulièrement aux éditeurs de France Inter.
Merci Jean-Marie. Donc vous validez. Merci. Belle prise de parole. Cerise, Ditasou et Osso Irati, c'est donc un mariage d'amour. Marc Thomas, vous êtes chef de restauration depuis 32 ans et depuis 8 ans, vous êtes au fourneau de la cantine du collège
Irandats, à Hendaye.
À Hendaye, absolument, pas très loin d'ici, et qui a obtenu depuis peu sa certification Écocer. Qu'est-ce que cela signifie?
Alors, nous avons obtenu la première certification, c'est le label manger bio, local et produits du terroir. Mm-hmm. Et il y a très peu de temps, c'est le label Écocert. Donc ça rejoint un peu la même chose, c'est manger bio dans les restaurants scolaires, mais qui implique aussi d'autres projets au niveau de l'établissement. C'est au niveau des produits de nettoyage, de recyclage, de tout ce genre de produits où il faut rester aussi labellisé.
C'est une démarche globale.
C'est une démarche
globale. C'est pas uniquement l'origine des ingrédients que vous utilisez.
Au niveau de l'assiette. Hein.
J'imagine que ça ne se fait pas en un jour, que c'est difficile, notamment pour des raisons souvent de volume ou parfois de coût. Vous êtes soumis évidemment à un budget limité, puisque la cantine scolaire a pour principe de rester accessible pour nos enfants. Et il est vrai que c'est pas simple de faire comme ça, de tisser un réseau de différents producteurs qui ont parfois des quantités un peu réduites. L'exemple du pain,
oui. Là, j'ai commencé avec un boulanger, ça fait 3 ans à peu près. Mm-hmm. Et lorsque je suis allé le rencontrer, donc c'est une démarche personnelle, et donc je lui ai proposé de travailler pour le collège. Seulement, quand je lui ai proposé 80 pains par jour, il m'a dit « Ouh là là, impossible, c'est trop pour moi, je suis seul ». Donc, on a commencé avec 20 pains par jour.
Et là, on parle de pain bio.
De pain bio, bien sûr.
Citez le nom du boulanger.
Alors, c'est la boulangerie Escousse.
Oui, on est où?
À Hendaye.
Oui.
Voilà, donc très local, qui vient me livrer même en vélo, donc pour dire qu'il est vraiment dans le projet. Et donc petit à petit, on a augmenté les quantités chaque année en disant on va passer à 30 pains, puis maintenant 40 pains. Et voilà, du coup, lui, ça le fait travailler. Il envisage même peut-être d'embaucher quelqu'un. justement pour avoir une production un peu plus importante, ce qui est très intéressant pour l'économie locale.
Donc ça monte en puissance. Vous travaillez avec environ combien de fournisseurs locaux ?
Locaux, il y a bien une vingtaine de fournisseurs locaux, donc que ce soit au niveau de la viande, au niveau des produits laitiers, au niveau des fruits et légumes. Donc voilà, la difficulté, ça a été au niveau des quantités. Donc là, il a fallu bien rencontrer les producteurs, essayer de négocier, et à l'établissement de s'adapter aux producteurs et non l'inverse, comme c'était le cas avant.
Vous fabriquez combien de repas par jour ?
600 repas, midi.
Imaginez 600 repas du niveau de cette excellente polenta sucrée. On va goûter également un bœuf stroganoff ou stroganoff.
Stroganoff.
Vous me disiez que c'était pas pour les légumes que c'était le plus compliqué de construire un réseau d'acheminement. C'est davantage les viandes ?
Davantage les viandes par rapport... Là, il a vraiment fallu s'adapter aux producteurs parce que lorsqu'on fonctionnait en conventionnel, il suffisait d'appeler deux jours avant en disant « il me faut 70 kilos de viande ». Ça, avec les producteurs locaux et en bio, c'est terminé. C'est le producteur qui m'appelle 3 semaines ou 4 semaines à l'avance en me disant « mais voilà, dans 3 semaines, je vais avoir une vache, un veau, et là, est-ce que ça peut t'intéresser d'avoir cette viande ?» Et donc, je m'adapte et je fais mes menus en fonction du producteur et non l'inverse.
C'est la matière première qui dicte vos menus.
C'est ça.
Ouais. Et voilà. Vos enfants sont bien nourris. Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que vous avez des sourires de ces collégiens qui viennent vous voir, vous remercient ? Est-ce que leurs parents répercutent leurs réactions ?
Alors, nous en parlons aussi dans les conseils d'administration. Donc, les parents d'élèves sont présents et arrivent à nous parler et nous faire des retours au niveau des élèves, bien sûr. Donc, c'est toujours très agréable d'avoir les élèves qui viennent vous dire « on a très bien mangé à midi, c'était très bon ». Et ça, c'est un plaisir.
Ils aiment le bœuf stroganoff ?
Ils aiment, oui, bien sûr. Vous allez le déguster, d'ailleurs.
Définition pour ceux qui ignorent ce classique de la cuisine française d'inspiration ?
Russe. Donc, c'est un chef français qui travaillait pour un lieutenant russe. Et donc, il a fait cette recette et il appelait le nom de son maître. Voilà.
C'est ça. Et ça se traduit comment dans la cocotte ?
Alors,
c'est très mijoté ?
C'est pas du tout mijoté. C'est une...
Ah. Non, non. Ah oui, une ouïe, pardon.
C'est un bœuf style filet de bœuf,
oui,
ou quelque chose de très tendre et très très doux que l'on fait juste revenir avec un peu de paprika et après une sauce à base d'échalotes, de crème de moutarde, de champignons aussi, et on rajoute le bœuf au dernier moment et on le mange en suivant. Voilà.
Très bien, et ben on va se régaler, on va ouvrir la cocotte, il y a déjà le fumet qui vient nous titiller les narines. Il n'y en aura pas pour vous. Il y a une petite cocotte, mais on va goûter ça ensemble. Et là, les enfants ont l'air d'apprécier aussi.
Bien sûr.
Bravo pour votre démarche. Alors, c'est une démarche collective, départementale.
Juste, voilà, oui. Juste un mot, parce que souvent, c'est une viande bio et qui vient d'une association qui s'appelle Bioshkaria. Donc, c'est une association de producteurs qui met sa viande en avant. Et donc, ça permet aussi d'avoir des plus grandes quantités, le fait d'avoir plusieurs producteurs en même temps.
Et comme Marc Thomas est super sympa, ses recettes, ses contacts sur place et quelques-uns de vos fournisseurs, pas tous évidemment, mais une shortlist. Je vais prendre des mails, vous parlez français au micro s'il vous plaît. Non, on parle basque aujourd'hui. Sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous connaissez le coup de l'âme d'Arnaud Daguin ou pas ? Hein ? Petit billet d'humeur, est-il de bonne ou de mauvaise humeur ? Eh ben on va le vérifier tout de suite.
France Inter.
Qui a soufflé 50 bougies cette année ? Quel demi-siècle commémore-t-on ? Quel jubilé célébrons-nous ? Le petit pas pour l'homme ? L'essor du Concorde ? La boucherie Manson ? L'année érotique ? Les Halles à Rungis ? Ouais. Mais aussi « Que je t'aime » de Johnny ? La démission du général ? L'ultime plongeon de Brian Jones ? Ouais. Mais cherchez encore, qui vais-je honorer aujourd'hui ? C'est qui ? Mon petit quinquagénaire. Allez, je vous aide. Ça commence par fesse et ça finit par toc. Vous l'avez pas ?
Ah, ok.
C'est le festival de Woodstock. Bravo. 50 ans cette année, oui ! Alors... J'ai donc pèleriné vers ce lieu jadis réputé pour sa pluviométrie, ses volutes de chanvre et ses orgies dans la boue bercées de riffs ravageurs. Woodstock, dont je précise qu'il n'a pas eu lieu à Woodstock, mais à 100 kilomètres de là, à Bethel. Bethel comme le Bethel, vous savez, la plante que mâchent les Indiens, mais avec un H au milieu. Et d'ailleurs, Il y en avait d'ailleurs pas mal de haches au milieu. C'est une autre histoire. Je déboule donc à Woodstock, enfin à Bethel, 50 ans après, dans un but précis. J'avais rendez-vous avec quelqu'un. Jimmy. Jimmy Lombrix. Ver de terre, vétéran, hirsute, frisé, toujours au taquet, et qui avait quelques trucs à nous dire. Alors Jimmy, toujours experienced, ça c'est le private joke. Yes man, c'est toujours la partouze dans la boue, tu peux me croire dude. Et en plus comme on est hermaphrodite, je te raconte pas le Kamasutra. Ici c'est cool, il y a de l'herbe partout, enfin on est sous des pâtures à vaches. Et nous, les heroes de la prairie, on remue 10 fois notre poids de terre tous les jours. On chie du fertilisant à jet continu, on creuse des kilomètres de galeries, on aère les sols, on fait de la vie, quoi. C'est pas 500 000 gamins qui piétinent tous les 50 ans qui vont nous gêner. Par contre, je peux te dire, man, il y a plein d'endroits où ça craint pour les frères. Dans tous les champs où ça laboure profond, là, ils disparaissent carrément. Pour le sexe en groupe, c'est mort. C'est pas qu'ils aiment plus le sexe, hein. Mais il n'y a plus de groupe. Ah bon? Mais comment se fait-ce? Well, c'est la charrue, man. Imagine qu'on te retourne ta maison, qu'on te nique ton garde-manger tout le temps. Pas cool, man, pas cool. Ok, Jimmy Lombrix, mais comment on fait pour travailler les sols si on ne laboure plus? Ben c'est nous qui travaillons les sols, mec. On le fait mieux que vous et en plus, gratos. Vous allez comprendre quand? Si vous voulez des sols vivants qui capturent un max de carbone, il faut laisser bosser les vers de terre. On fait même pousser des arbres avec nos galeries. Leurs racines, elles kiffent à mort. Les arbres, c'est du bois, man. Le bois, c'est du carbone. Le carbone, c'est la vie. Alors, laissez-nous faire des stocks de bois. Des stocks de bois, Woodstock, t'as capté, man? Woodstock! Wow.
Bravo. La vie délurée des Lombrix. Et pas seulement au Pays Basque, mais peut-être bien un peu plus au Pays Basque qu'ailleurs, car c'est quand même...
C'est quand même un pays d'élevage, et comme on le sait, les prairies naturelles, c'est quand même ce qui stocke le plus de carbone, qui est capable d'infiltrer le plus d'eau, qui fait le plus de biodiversité, donc encourageons tout ça.
Et des produits paysans portés par un élan collectif, Christian Aguerre, vous défendez la polyculture. C'est une des clés du succès, selon vous, notamment.
Oui, la polyculture, la diversification sur les fermes, qui est d'ailleurs souvent stimulé par le circuit court, quoi. C'est le circuit court qui stimule la diversification sur la ferme. Je vois, nous, dans notre quartier, en quelques années, la gamme s'est élargie, puisqu'on propose que les produits qu'on produise dans le quartier. Et ça a permis, déjà, ça a des vertus agronomiques. On mélange les productions, on fait des rotations, on mélange l'animal et le végétal, des vertus économiques. On met pas tous les œufs dans le même panier. Ça permet aussi d'étaler un peu le travail sur l'année, puis ça permet d'installer des paysans, puisque des 4-5 paysans qu'on était au départ, aujourd'hui dans le quartier, on est une douzaine sur les mêmes fermes, sur les mêmes surfaces. Donc c'est vraiment la diversification, toutes ses vertus, quand c'est accompagné en plus par des démarches collectives qui impulsent, par exemple, le maïs grand roux, ou alors avec Chagartia les pommes, le quinoa, enfin je veux dire, toutes ces démarches collectives viennent appuyer ces projets de diversification sur les fermes.
Et c'est le collectif qui fait la force, et c'est ça qui est beau. On sait aussi que la polyculture, évidemment, est une action idéale pour sauvegarder la biodiversité agricole. Et ben, on finit justement avec un mot sur une initiative collective. Il nous reste une petite minute, Maryse, pour vous nous expliquer, car c'est vraiment une initiative modèle, le travail de l'association Lourdes à India.
Lourd, ça veut dire terre. Sa India, c'est préserver. Et donc, tout simplement, l'objectif de Lourdes à India, c'est préserver la terre nourricière. Alors, on le fait...
Terre nourricière, l'ourama, on l'a pas dit, mais c'est aussi la terre-mère en basque. Hein.
Voilà,
il fallait
exactement.
Peut-être commencer par ça. Enfin, je parle pour moi, hein, je vous fais pas de reproches.
Et donc, le travail de l'Ours India, c'est notamment d'acheter de la terre grâce à l'épargne populaire pour pouvoir permettre à des jeunes qui ne sont pas issus forcément du milieu agricole notamment, d'accéder à du foncier. Donc là, par exemple, à Urth, donc plutôt du côté de la côte basque, on a permis à une jeune maraîchère de s'installer. Et puis au Pays basque intérieur, un jeune couple peut s'installer aussi avec des brebis tête noire.
Ah, association Lourdes à India, merci beaucoup. Il y aura des infos sur le site internet, on va mettre tous les liens pour vous renseigner. En tout cas, c'est une très belle démarche dans laquelle vous œuvrez, Maryse Cachenon. On arrive déjà au terme de cette émission. C'est passé très vite. Elle était réalisée par Laurent Thomas avec Léo Gonin, Pierre Rousseau, Franck Deschamps de France Bleu Pays Basque, qu'on remercie chaleureusement pour leurs moyens techniques.
Nadia Chougui pour la préparation et la logistique. Et un grand merci à Lourama. Longue vie à ce salon de Biarritz, le salon de l'agriculture paysanne. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.